Lors de mon arrivée en poste, la ligne dure des conservateurs avait repris le pouvoir à Téhéran, menée par un nouveau président, Mahmoud Ahmadinejad, qui, entre ses diatribes anti-occidentales, son négationnisme et sa persécution des homosexuels comme de toute personne qualifiée de menace, était un parfait condensé des traits les plus haineux du régime. L'Iran continuait à armer des milices visant les soldats américains en Irak et en Afghanistan. L'invasion de l'Irak par les États-Unis avait grandement renforcé la position stratégique de l'Iran dans la région en renversant son ennemi juré, Saddam Hussein, pour le remplacer par un gouvernement à majorité chiite, perméable à l'influence iranienne. Le Hezbollah, affilié à l'Iran, était devenu la faction la plus puissante du Liban, dotée de missiles d'origine iranienne capables de frapper Tel Aviv. Les Saoudiens et les Israéliens s'alarmaient de l'expansion d'un croissant chiite sous l'impulsion iranienne et ne cachaient pas leur souhait de voir les États-Unis provoquer un changement de régime. Dans ces circonstances, l'Iran représentait donc déjà la promesse d'une migraine carabinée pour mon gouvernement. Mais quand il a mis un coup d'accélérateur à son programme nucléaire, il a menacé de transformer une situation épineuse en crise généralisée. Le régime avait hérité de centrales nucléaires construites à l'époque du Shah et, conformément au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dont l'Iran était signataire et qu'il avait ratifié en 1970, il avait le droit de fabriquer de l'énergie nucléaire dans un but civil. Seulement, la centrifugeuse permettant d'obtenir l'uranium faiblement enrichi qui alimentait les centrales pouvait être modifiée pour produire un uranium hautement enrichi à usage militaire. Pour citer un de nos experts, avec la bonne quantité d'uranium enrichi, un lycéen disposant d'un accès à Internet peut fabriquer une bombe. Entre 2003 et 2009, l'Iran multiplia les centrifugeuses, faisant passer leur nombre de 100 à 5000, un chiffre que ne pouvait justifier aucun programme civil. Les milieux du renseignement américain doutaient que l'Iran dispose déjà de l'arme nucléaire, mais ils étaient également convaincus que le régime avait dangereusement réduit le délai nécessaire pour fabriquer une bombe utilisable. L'acquisition par l'Iran d'un arsenal nucléaire ne menacerait pas forcément le sol américain. En revanche, le risque de frappe ou de terrorisme non conventionnel au Moyen-Orient limiterait fortement la capacité d'un futur président des États-Unis à contenir l'agressivité de l'Iran envers ses voisins. Les Saoudiens réagiraient vraisemblablement en développant leurs propres bombes sunnites, déclenchant une course à l'arme nucléaire dans la région la plus instable du monde. De son côté, Israël, qui possède supposément une collection d'armes nucléaires non déclarées, jugeait qu'un Iran nucléarisé constituait une menace vitale et se préparait, selon certaines informations, à effectuer des frappes préventives sur diverses centrales iraniennes. La moindre action, réaction ou erreur de jugement d'un de ces acteurs était susceptible de précipiter le Moyen-Orient et les États-Unis dans un nouveau conflit, à un moment où nous avions encore 180 000 hommes très exposés le long des frontières iraniennes et où une hausse soudaine du prix du pétrole risquait de faire chuter l'économie mondiale. À plusieurs reprises durant mon mandat, nous avons imaginé à quoi ressemblerait une guerre avec l'Iran. Je sortais de ces conversations plombées par la certitude que, s'il fallait en arriver là, presque tout ce que j'essayais d'accomplir par ailleurs serait compromis. Pour toutes ces raisons, mon équipe et moi avons passé une grande partie de la transition à chercher comment empêcher l'Iran de se doter d'armes nucléaires. Privilégiant la voie diplomatique au déclenchement d'une nouvelle guerre, nous avons élaboré une stratégie en deux étapes. Puisque les ponts entre les gouvernements américains et iraniens étaient pratiquement coupés depuis 1980, la première étape serait d'établir une relation directe. Ainsi que je l'avais affirmé lors de mon discours d'investiture, nous étions prêts à tendre la main à tous les pays disposés à desserrer le poing. Quelques semaines après ma prise de fonction, j'ai fait parvenir, par l'intermédiaire de diplomates iraniens siégeant aux Nations Unies, un courrier secret à l'ayatollah Khamenei pour lui proposer d'ouvrir un dialogue entre nos deux pays sur tout un éventail de questions, parmi lesquelles le programme nucléaire iranien. La réponse de Khamenei a été lapidaire. L'Iran n'était pas intéressé par des pourparlers en direct. Il a ensuite profité de l'occasion pour me suggérer diverses choses que pourraient faire les États-Unis pour cesser de se comporter en tyran. « On dirait qu'il n'est pas prêt de desserrer le poing », a commenté Ram après avoir lu une copie de la lettre traduite du farsi. « Non, pour le moment, il se contente de me faire un doigt d'honneur », ai-je dit. En vérité, personne à la Maison-Blanche n'espérait de réponse positive. Mais j'avais malgré tout envoyé ce courrier, car je souhaitais établir que ce n'étaient pas les États-Unis qui, par leur intransigeance, faisaient obstacle à la diplomatie. C'était l'Iran. J'ai appuyé ce message d'ouverture à destination du peuple iranien en mars dans des vœux diffusés en ligne pour Nowruz, le nouvel an persan. Finalement, toute perspective d'avancée prochaine a été anéantie en juin 2009 lorsque le candidat de l'opposition iranienne, Mir Hossein Mousavi, a accusé le gouvernement de truquer les élections afin de maintenir Ahmadinejad en place pour un second mandat. Des millions de manifestants sont descendus dans les rues pour contester les résultats de l'élection, marquant le début d'un mouvement vert qui a provoqué une secousse d'une ampleur inédite depuis la révolution de 1979. La riposte a été prompte et sans pitié. Mousavi et d'autres leaders de l'opposition ont été assignés à résidence. Des manifestants pacifistes ont été passés à tabac et un grand nombre d'entre eux ont été tués. Un soir, depuis le confort de la Maison Blanche, tandis que je consultais des articles sur les manifestations, j'ai vu une vidéo d'une jeune femme abattue dans une rue, agonisante, le visage éclaboussé de sang et les yeux chargés de reproches. C'était un rappel terrifiant du prix que paient tant de personnes à travers le monde pour avoir voulu se faire entendre de leurs gouvernants. Et mon premier élan a été d'exprimer tout mon soutien aux manifestants. Mais lorsque j'ai réuni mon conseil de sécurité nationale, nos spécialistes de l'Iran me l'ont déconseillé, assurant que toute déclaration se retournerait contre moi. La ligne dure du régime commençait déjà à prétendre que ces manifestations avaient été provoquées par des agents étrangers, et les militants sur place redoutaient que notre soutien ne soit instrumentalisé pour discréditer leur mouvement. Contraint de tenir compte de ces avertissements, je me suis contenté d'une série de déclarations neutres et bureaucratiques. Nous continuons à surveiller la situation. Les droits universels que sont la liberté de réunion et la liberté d'expression doivent être respectés. En appelant à une résolution pacifique qui reflétait le désir du peuple iranien. Plus la violence s'intensifiait, plus je la condamnais. Mais cette approche passive ne me correspondait pas, et pas uniquement parce qu'elle permettait aux républicains de me casser les oreilles en hurlant que j'étais trop tendre avec un régime assassin. J'apprenais une nouvelle leçon difficile de la présidence. Mon cœur était désormais enchaîné à des considérations stratégiques et à des analyses tactiques, mes convictions soumises à des arguments contre-intuitifs. Depuis mon fauteuil dans le plus puissant bureau du monde, j'avais moins de latitude pour dire ce que je pensais et agir avec mes tripes qu'au temps où j'étais sénateur, ou citoyen ordinaire, révolté par la vue d'une jeune femme abattue par son propre gouvernement. Et conduit dans nos efforts pour ouvrir un dialogue avec l'Iran, et alors que le pays sombrait dans le chaos et la répression, nous sommes passés à la deuxième étape de notre stratégie de non-prolifération. La mobilisation de la communauté internationale afin d'appliquer des sanctions sévères et multilatérales susceptibles de pousser l'Iran à s'asseoir à la table des négociations. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait déjà adopté de multiples résolutions exhortant l'Iran à cesser ses activités d'enrichissement. Il avait en outre donné son aval à des sanctions limitées et constitué un groupe nommé P5+1, composé de ses 5 membres permanents, États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie et Chine, ainsi que de l'Allemagne, qui devait rencontrer les délégués iraniens dans l'espoir de ramener le pays dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Seulement, les sanctions existantes, trop limitées, n'étaient guère efficaces. Certains alliés des États-Unis, tels que l'Allemagne, restaient en très bons termes commerciaux avec l'Iran, et à peu près tout le monde achetait son pétrole. L'administration Bush avait unilatéralement imposé des sanctions supplémentaires, mais elles étaient essentiellement symboliques, car les entreprises américaines avaient l'interdiction de faire affaire avec l'Iran depuis 1995. Le prix du pétrole étant élevé et son économie en plein essor, l'Iran se faisait un plaisir de mener le P5+1 par le bout du nez lors de séances de négociations qui ne débouchaient sur rien d'autre que la promesse de nouvelles discussions. Pour capter l'attention de l'Iran, nous allions devoir convaincre d'autres pays de serrer la vis. Et pour cela, il allait nous falloir obtenir des gages de 2 puissants adversaires historiques qui, par principe, désapprouvaient les sanctions, entretenaient de chaleureuses relations diplomatiques et commerciales avec l'Iran et se méfiaient presque autant que Téhéran des visées américaines. Ayant grandi dans les années 1960 et 1970, j'étais assez âgé pour me souvenir que la guerre froide avait défini l'ordre international, scindé l'Europe en deux, causé une course à l'armement nucléaire et engendré des conflits périphériques dans le monde entier. Elle avait aussi modelé mon imagination. Dans les manuels scolaires, les journaux, les romans d'espionnage et les films, l'Union soviétique était le redoutable adversaire des États-Unis dans le combat entre la liberté et la tyrannie. J'appartenais en outre à la génération de l'après-Vietnam, qui avait appris à douter de son propre gouvernement et savait combien, depuis la montée du macartisme jusqu'à la défense de l'apartheid sud-africain, l'état d'esprit de la guerre froide avait pu conduire les États-Unis à trahir leurs idéaux. Cette prise de conscience n'entamait pas ma certitude qu'il fallait contenir l'expansion du totalitarisme marxiste, mais elle m'aidait à me garder de croire que le bien était uniquement de notre côté et le mal du leur, ou qu'un peuple ayant vu naître Tolstoï et Tchaïkovski était intrinsèquement différent de nous. Au contraire, les travers du système soviétique m'apparaissaient comme une variation autour du thème plus général de la tragédie humaine, la dérive de théories abstraites et d'orthodoxies inflexibles qui dégénèrent en autoritarisme, notre promptitude à excuser les compromissions morales et à renoncer à nos libertés, la vitesse à laquelle le pouvoir peut nous corrompre, la peur nous ronger et le langage être dévoyé. À mon sens, ce n'était pas propre aux soviétiques, c'était vrai pour chacun de nous. La courageuse lutte des opposants de l'autre côté du rideau de fer ne me semblait pas différente de toutes les luttes pour la dignité humaine qui agitaient le monde entier, y compris les États-Unis. Lorsque, vers le milieu des années 1980, Mikhail Gorbatchev est devenu secrétaire du Parti communiste et a entamé avec la perestroïka et la glasnost une libéralisation prudente, j'ai suivi ces événements de près en me demandant s'ils annonçaient une ère nouvelle. Et puis, quelques années plus tard, le mur de Berlin a été abattu et des militants russes pro-démocratie ont poussé Boris Eltsine au pouvoir, balayant l'ancien régime communiste et achevant la désintégration de l'Union soviétique. J'y ai vu non seulement une victoire de l'Occident, mais surtout une affirmation de la puissance des mobilisations citoyennes et un avertissement adressé à tous les despotes. Si le tumulte qui a englouti la Russie dans les années 1990, effondrement économique, corruption débridée, populisme de droite, oligarques douteux, m'a ensuite donné à réfléchir, je conservais toutefois l'espoir que, après une transition forcément difficile vers l'économie de marché et le gouvernement représentatif, une nouvelle Russie émergerait, qui serait plus juste, plus prospère et plus libre. Quand je suis devenu président, cet espoir m'avait pratiquement quitté. Certes, le successeur de Boris Eltsine, Vladimir Poutine, arrivé au pouvoir en 1999, affirmait ne pas souhaiter un retour au marxisme-léninisme, qu'il qualifia un jour d'erreur, et était parvenu à stabiliser l'économie du pays, grâce notamment aux recettes considérables découlant de la hausse du prix du pétrole. Les élections se tenaient désormais en conformité avec la constitution russe, les capitalistes étaient partout, les citoyens ordinaires pouvaient voyager à l'étranger, et les militants pro-démocratie, tels que le champion d'échecs Garry Kasparov, avaient la liberté de critiquer le gouvernement sans risquer un aller simple pour le goulag. Et pourtant, sous Poutine, la nouvelle Russie ressemblait chaque année un peu plus à l'ancienne. Il est apparu évident qu'une économie de marché et des élections périodiques étaient parfaitement compatibles avec un autoritarisme doux, qui concentrait peu à peu le pouvoir entre les mains de Poutine et rétrécissait l'espace ouvert à la contestation. Les oligarques coopérant avec Poutine devenaient richissimes. Ceux qui prenaient leur distance avec lui étaient la cible de poursuites judiciaires et se voyaient confisquer leurs capitaux. Quant à Kasparov, il a fini par passer quelques jours en prison pour avoir mené une manifestation anti-Poutine. Le président plaçait ses affidés à la tête des principaux organes de presse du pays et faisait pression sur les autres pour qu'ils le traitent avec la même indulgence que les médias d'État au temps du communisme. Les journalistes indépendants et les personnalités de la société civile étaient surveillés par le FSB, l'incarnation moderne du KGB, et dans certains cas, tués. Pour autant, le pouvoir de Poutine ne reposait pas uniquement sur la coercition. Il bénéficiait d'une réelle popularité auprès de son peuple, avec un taux d'approbation qui descendait rarement sous les 60%. Cette popularité était enracinée dans un nationalisme historique, la promesse de rendre à la mère Russie sa gloire passée et de racheter l'humiliation et les bouleversements dont avaient souffert tant de Russes depuis deux décennies. Si Poutine pouvait convaincre avec cette vision, c'est parce qu'il avait lui-même été affecté par ces bouleversements. Issu d'une famille dépourvue de relations et de privilèges, il avait gravi méthodiquement les échelons. Une formation de réserviste de l'armée rouge, des études de droit à l'université d'État de Leningrad, une carrière au KGB. Après des années de bons et loyaux services, en 1989, il était parvenu à une situation de rang et d'envergure modeste, quand le système auquel il avait consacré toute sa vie avait basculé du jour au lendemain, en même temps que tombait le mur de Berlin. Poutine était alors en poste pour le KGB à Dresde, en Allemagne de l'Est, et aurait passé les jours suivants à détruire frénétiquement des dossiers et à monter la garde contre d'éventuels pillards. Après cela, il avait rapidement changé son fusil d'épaule et s'était allié, dans le monde post-soviétique, au démocrate réformateur Anatoli Sobchak, un mentor rencontré pendant ses études de droit et qui était devenu maire de Saint-Pétersbourg. Poutine s'était ensuite lancé en politique nationale, avait progressé dans les rangs de l'administration Eltsine à une vitesse étourdissante, occupé une quantité de postes différents, y compris directeur du FSB, et profité de son pouvoir pour s'entourer d'alliés, dispenser des faveurs, collecter des secrets et déjouer les plans de ses rivaux. Eltsine l'avait nommé premier ministre en août 1999, puis, à la surprise générale, avait quitté son poste 4 mois plus tard, miné par des scandales de corruption, une mauvaise santé, de légendaires problèmes de boissons et une ribambelle d'erreurs de gestion économique, faisant de Poutine le président russe par intérim. C'était le coup de pouce dont celui-ci avait besoin pour se faire élire en bonne et due forme 3 mois plus tard. Une de ses premières décisions fut de gracier Eltsine pour toutes ses malversations. Entre les mains de personnes rusées et sans scrupules, le chaos peut se révéler un don du ciel. Mais que ce soit par instinct ou par calcul, Poutine avait saisi le désir d'ordre du peuple russe. Bien que la majorité de la population n'ait aucun intérêt à revenir au temps des fermes collectives et des magasins vides, elle était lasse, elle avait peur et était irritée de voir que, dans le pays comme à l'étranger, certains avaient profité de la faiblesse d'Eltsine. Elle préférait être menée d'une main de fer et Poutine s'empressa de lui donner satisfaction. Il réaffirma ainsi le contrôle russe sur la Tchétchénie, province à dominante musulmane, sans hésiter à se hisser avec une action militaire d'une brutalité implacable au niveau de la violence terroriste des séparatistes. Il rétablit les méthodes de surveillance soviétique au nom de la sécurité. Lorsque des militants pro-démocratie s'opposaient à ses penchants autoritaires, Poutine les accusait d'être à la solde de l'Occident. Il ressuscita les symboles pré-communistes et même communistes et se rapprocha de l'Église orthodoxe russe, jusque-là interdite. Amateur de projets pharaoniques, il se lança dans des entreprises exorbitantes, présentant la candidature de la ville balnéaire de Sotchi pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver. Avec la méticulosité d'un adolescent sur Instagram, il inonda la presse de photos de lui, renvoyant une image presque caricaturale de force virile, Poutine torse nu sur un cheval, Poutine jouant au hockey, tout en faisant preuve d'un chauvinisme et d'une homophobie désinvolte et en répétant que les valeurs de la Russie étaient infectées par des éléments étrangers. Tout ce que faisait Poutine concourait à l'idée que, sous sa houlette ferme et paternelle, la Russie avait retrouvé la forme. Seul souci, la Russie n'était plus une superpuissance. Bien que son arsenal nucléaire soit surpassé seulement par le nôtre, il manquait à la Russie le vaste réseau d'alliances et de bases qui permettait aux États-Unis de projeter leur puissance militaire sur tout le globe. Son économie restait en dessous de l'Italie, du Canada et du Brésil et reposait presque exclusivement sur les exportations de pétrole, de gaz, de minerais et d'armes. Dans plusieurs quartiers de Moscou, les boutiques de luxe témoignaient de la transformation d'une économie d'État rouillée en un capitalisme engendrant toujours plus de milliardaires. Mais en voyant les privations endurées par le peuple, on comprenait que cette nouvelle richesse ruisselait très peu. Selon plusieurs indicateurs internationaux, les niveaux de corruption et d'inégalité rivalisaient avec certains pays en développement et en 2009, l'espérance de vie pour les hommes était inférieure à celle du Bangladesh. Rares étaient les jeunes Africains, Asiatiques ou Sud-Américains qui voyaient dans la Russie une inspiration pour améliorer leur société, qui était stimulée par les films ou la musique de ce pays, ou qui rêvaient d'y faire leurs études, et encore moins d'y émigrer. Dépouillés de ces oripeaux idéologiques, de l'ancienne promesse faite aux travailleurs que leur union parviendrait à briser leurs chaînes, la Russie de Poutine renvoyait l'image d'un pays isolé et méfiant à l'égard des étrangers. Un pays à craindre peut-être, mais pas à imiter. Ce fossé entre la réalité de la Russie actuelle et l'insistance de Poutine sur son statut de superpuissance pouvait, à mon sens, aider à comprendre son attitude de plus en plus combative dans ses relations avec les autres pays. Nous étions la cible principale de son courroux. Dans ses déclarations publiques, Poutine critiquait amèrement la politique américaine. Lorsque des initiatives soutenues par les États-Unis arrivaient devant le Conseil de sécurité de l'ONU, il veillait à ce que la Russie les bloque ou les sabote, surtout lorsqu'elles touchaient aux droits fondamentaux. Dans un registre plus inquiétant, Poutine s'efforçait avec une agressivité croissante d'empêcher que les pays de l'ex-bloc de l'Est ne sortent de l'orbite russe. Nos diplomates entendaient régulièrement les voisins de la Russie se plaindre d'intimidation, de pressions économiques, de campagnes de désinformation, de propagande électorale déguisée, de soutien aux candidats pro-russes, voire de subordination pure et simple. En Ukraine, il y avait eu le mystérieux empoisonnement d'un militant réformiste devenu président et qui déplaisait à Moscou. Viktor Yushchenko. Et puis, bien entendu, il y avait eu l'invasion de la Géorgie à l'été 2008. Difficile de deviner jusqu'où la Russie comptait aller sur cette voie périlleuse. Poutine n'était plus président. Malgré son succès dans les sondages, il avait choisi de se conformer à la constitution russe qui l'empêchait de briguer un troisième mandat et avait laissé sa place à Dmitri Medvedev, son ancien vice-président, qui, après son élection en 2008, l'avait nommé premier ministre. Les analystes s'accordaient à dire que Medvedev lui gardait la place jusqu'en 2012, date à laquelle Poutine pourrait de nouveau se présenter. Cela étant, sa décision de s'effacer, mais surtout de mettre en avant un homme plus jeune et connu pour ses opinions plutôt libérales et pro-occidentales, laissait entendre qu'il cherchait, au minimum, à ménager les apparences. Mieux, elle ouvrait la possibilité que Poutine quitte un jour le pouvoir pour endosser le rôle de conseiller expérimenté, permettant à une nouvelle génération de dirigeants de remettre la Russie sur le chemin de la modernité, de la démocratie et de l'état de droit. Tout cela était certes possible, mais guère probable. Les historiens constatent, depuis l'époque des tsars, une tendance russe à importer en fanfare les dernières idées européennes, aussi bien le gouvernement représentatif que la bureaucratie moderne, l'économie de marché que le socialisme d'État, avant de les abandonner ou de les subordonner à des méthodes antérieures et plus dures de maintien de l'ordre social. Dans la lutte interne à l'identité russe, la peur et le fatalisme l'emportaient généralement sur l'espoir et le changement. C'était la conséquence compréhensible d'une histoire millénaire faite d'invasions mongoles, d'intrigues byzantines, de grandes famines, de servages généralisés, de tyrannies effrénées, d'insurrections innombrables, de révolutions sanglantes, de guerres dévastatrices, de sièges interminables et de morts par millions, le tout sur un territoire glacial et inhospitalier.